La quête du Graal, c'est quelque chose qui a passionné les foules pendant tout le Moyen-Âge. Et encore aujourd'hui, on en parle, il y a des films et des tas de choses. Et il y a des tas d'hypothèses qui sont sur cette question assez complexe. Vous savez, enfin, je le dis pour les enfants qui ne le savent peut-être pas, le Graal, c'est le nom qu'on donne à la coupe qu'aurait utilisée Jésus pendant la Sainte Cène, c'est-à-dire pendant le dernier repas qu'il a fait avec ses disciples. Alors si Jésus a utilisé une coupe extraordinaire, on pense bien que ça devait être un objet merveilleux qu'on aurait envie de garder. Et la légende dit que c'est aussi dans cette même coupe que Joseph d'Arimathée aurait recueilli, après la mort de Jésus, le sang et l'eau qui s'écoulaient de la plaie qu'avait le Christ, que les soldats romains avaient fait en plantant une lance dans son côté, quand Jésus était mort sur la croix. Alors ce Graal a été recherché pendant tout le Moyen-Âge, mais ça a donné en particulier la légende, on en parle dans la légende de la table ronde avec Perceval, et on attribuait à ce Graal des pouvoirs extraordinaires, et en particulier celui de donner l'immortalité, ce qui est assez tentant. Alors il y avait un autre objet aussi qui m'intéresse, c'était la pierre philosophale. Alors la pierre philosophale, elle était recherchée par les alchimistes, et on disait qu'elle avait le pouvoir de transformer le plomb en or. Et donc les alchimistes essayaient de trouver cette pierre en se disant que s'ils la trouvaient, ils seraient extrêmement riches, et on attribuait aussi à cette pierre philosophale des tas d'autres pouvoirs extraordinaires. Bon, ces deux objets sont merveilleux. Le problème, c'est qu'apparemment, personne ne les a jamais trouvés. Et pourtant, quand on lit les textes de la tradition mystique du Moyen-Âge, on a l'impression que certains disent avoir trouvé l'un ou l'autre, ce qui est assez étrange. Alors j'ai cherché, j'ai mené ma propre enquête et j'ai trouvé à la fois le Graal et la pierre philosophale, et je vais vous les montrer. Alors d'abord, regardons la question du Graal. Pour ça, il faut faire une enquête sérieuse, et pour ça, il faut revenir aux sources. Ce Graal, je vous l'ai dit, c'est la coupe qu'aurait utilisé Jésus lors de la dernière scène. Et vous savez que dans ce repas, Jésus a célébré la Pâque juive, qui était une fête qui précédait la Pâque chrétienne. Et la Pâque juive célébrait la sortie d'Égypte. Et à ce moment-là, il y a eu un événement terrible. La Bible raconte qu'il y avait c'est la dernière des plaies d'Égypte, un ange exterminateur qui passait au-dessus de l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés de tous les familles, des animaux, du bétail, des êtres humains et tout ça. Et qu'à ce moment-là, Dieu leur dit, je vais vous donner un truc pour échapper à cette mort qui est donnée à tout le monde. Vous n'avez qu'à tuer un agneau et là, vous l'offrez à Dieu en sacrifice et vous en badigeonnez vos portes avec le sang de l'agneau et tous ceux qui seront marqués du sang de l'agneau, eh bien, la mort passera sans les atteindre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, on imagine bien que le parallèle avec l'histoire chrétienne est assez facile. Et on a dit, comme le peuple juif a été sauvé par le sang de cet agneau sacrifié, Jésus, il est comme l'agneau que l'on sacrifie, et tous ceux qui sont marqués de son sang, eh bien, auront la vie sauve, c'est-à-dire seront sauvés de la mort. Bon, ça c'est pas mal, d'autant plus que justement, au moment de la scène, ce serait dans cette coupe du Graal qu'aurait été recueilli le sang, le vin dont Jésus a dit « ceci est mon sang », c'est-à-dire le sang du Christ, et qui ensuite aurait recueilli le sang du Christ après sa mort, donc tout cela est cohérent, et il est bien question du sang du Christ. La question c'est de savoir, est-ce que le sang du Christ nous sauve de la mort, comme le sang de l'agneau avait sauvé les Israélites de l'ange exterminateur? Eh bien la réponse c'est oui, d'une certaine manière, parce que d'abord, la mort du Christ, vous le savez, ne conduit pas vers la catastrophe, mais conduit à la résurrection, c'est-à-dire que Jésus ressuscite. Bon, alors là, je le dis un peu vite, il faut retourner à tous les cultes que nous faisons à Pâques pour savoir ce que veut dire que Jésus ressuscite. Certains le croient d'une façon très matérielle, Jésus ressuscite en chair et en os. D'autres disent, non, Jésus, il est mort et il est mort. Mais les disciples comprennent qu'il y a quelque chose en lui qui traverse la vie et que Jésus est le premier qui nous montre le chemin de la vie éternelle. Parce que la résurrection du Christ, ce n'est pas un spectacle qui nous est donné. Paul dit, et il a raison, que la résurrection du Christ nous indique le chemin de notre propre résurrection. C'est-à-dire que comme Jésus ressuscite, nous aussi nous ressuscitons. Or, moi, je n'attends pas de ressusciter en chair et en os une fois que je serai mort. Par contre, je crois que Dieu nous donne la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose qui est plus fort que la mort et que ce quelque chose qui est plus fort que la mort et qui traverse la mort et qui vit pour l'éternité, c'est ce qui est de l'ordre de l'amour, du don, de la générosité, de la valeur profonde de notre être. Et quand nous vivons des choses qui sont au-delà de l'égoïsme, au-delà de la matérialité, au-delà de la bestialité, eh bien, toute cette dimension supérieure de notre être, elle est au-delà du matériel, au-delà du visible et au-delà de la mort, et elle traverse la mort pour l'éternité. Et donc, nous sommes tous, comme dit le poète, mi-ange, mi-bête. La bête qui est en nous mourra à son heure, mais ce qui en nous est ange vit pour l'éternité et donc traverse la mort. Et je pense effectivement que Jésus nous montre ce chemin, parce que lui, finalement, il a réussi à avoir dans sa vie une dimension tellement spirituelle de proximité avec Dieu, d'amour, de préoccupation de l'autre, que même si le corps de Jésus meurt, eh bien, ça n'est pas grave. Il reste tout l'essentiel, c'est-à-dire sa générosité, son amour, sa proximité avec Dieu, sa parole qu'il a reçue de Dieu, etc. Et donc, il est bien le vivant par excellence. Et donc, je crois effectivement que cette coupe, le Christ, eh bien, a bien le secret de la vie éternelle. Et c'est vrai donc que ceux qui boivent le sang du Christ, ça veut dire ceux qui se nourrissent de la personne du Christ, ceux qui mettent en eux-mêmes la source même, l'origine de la vie du Christ, quand on se nourrit du Christ lui-même, eh bien, en nous-mêmes, on devient des êtres éternel en quelque sorte. Donc dans la vie, et c'est ce qu'on annonce au moment des baptêmes, quand on baptise un bébé, on dit c'est bien de baptiser un enfant parce que ça veut dire qu'il n'est pas qu'un être de chair et de sang, et pour qu'un enfant grandisse, il ne suffit pas de lui donner à manger des nourritures terrestres, il faut aussi lui donner à manger des nourritures spirituelles, des valeurs, des choses qui sont au-delà du matériel, et un être humain n'est pas qu'une bête. Voilà. Alors nous pensons, chrétiens, que l'Évangile, l'enseignement du Christ, eh bien, c'est une nourriture extraordinaire pour faire en sorte que nous soyons autre chose que des bêtes, autre chose que des êtres égoïstes et matérialistes, et qu'il y a en nous, justement, une dimension de l'élévation au-dessus des pâquerettes, quelque chose de l'élévation au-dessus de l'égoïsme, au-dessus de la violence, au-dessus de la défense du territoire, au-dessus du désir de posséder, d'écraser l'autre et d'imposer sa force, mais justement une dimension d'altruisme, de générosité, d'amour, de service, de grâce, et que c'est cette dimension-là qui nous donne la vie éternelle. Eh bien, je crois, donc nous voulons boire ce sang du Christ, c'est-à-dire boire à la source même de la vie du Christ, et on dit aussi manger le corps du Christ, c'est-à-dire manger Jésus, je me nourris de ce qu'est le Christ, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de l'Évangile. Donc je mange cette parole, je mange cet enseignement, je me nourris, je m'abreuve de tout ce qu'a fait Jésus, et ça, eh bien, ça donne en moi une source de vie qui me permet d'être au-delà du matériel, au-delà de l'animal pur et d'accéder à cette dimension de la vie éternelle sans mourir. Donc je suis bien d'accord. Cette coupe de la scène, c'est bien ce qui nous permet de passer de la mort à la vie. Et ça, je le comprends très bien. Et donc cette coupe de la scène, c'est bien le Graal. Maintenant, le problème, c'est l'interprétation matérialiste de la chose, justement. Et ceux qui n'ont jamais trouvé le Graal, sont des imbéciles matérialistes. C'est-à-dire, ils ont cru que ce qui comptait, c'était l'objet. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'objet, c'est ce qu'il représente, bien sûr. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça peut nous faire d'avoir la coupe de Jésus ou pas la coupe de Jésus? Ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est boire ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire s'abreuver de la vie du Christ et de l'Évangile. Et c'est ça qui nous fait vivre. Et cette coupe, elle peut se trouver n'importe où. Elle peut se trouver dans une coupe de communion ou de Sainte-Cène à l'Église, mais elle peut aussi se trouver en dehors. Parce que la vie du Christ, elle n'est pas que dans un rite, elle n'est pas dans un sacrement qu'on fait ici. Elle est dans une démarche personnelle de dire « Moi, je veux me nourrir de la personne du Christ, je veux boire son sang et manger son corps. » Et c'est ça qui compte. Et à ce moment-là, eh bien, nous pouvons trouver cette transformation qui nous permet de passer de la mort à la vie. Alors ainsi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la coupe elle-même, mais ce qu'il y a dedans. Bon, ça c'est vrai, ça me semble important. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, je pense qu'effectivement c'est une chose importante. Et le problème, c'est, une fois de plus, ceux qui lisent les expressions au pied de la lettre. On dit l'important, c'est le Graal. Alors ils cherchent le Graal. Mais c'est aussi idiot que quand je m'amuse à embêter mes enfants, quand il y en a un qui me dit « passe-moi la carafe d'eau ». Alors je dis « très bien ». Je vais dans l'évier, je vide la carafe de son eau et je lui passe la carafe d'eau. Et il dit « mais ce n'est pas ce que je voulais, ce que je voulais c'est l'eau qui est dedans ». Alors de même, quand quelqu'un dit « j'ai bu un verre », je dis « ah bon, tu as bu un verre, mais comment tu as fait ? Un verre c'est très dur à boire, c'est même difficile à manger parce que c'est pas facile, il faut le casser en petits morceaux ». Il dit « non, j'ai bu ce qu'il y avait dans le verre ». Il paraît que ça s'appelle une métonymie, c'est ça, en français, ou chose comme ça. C'est-à-dire, on décrit le contenant par le contenu. Eh bien voilà, il y a des imbéciles qui confondent les deux, et donc ceux qui continuent de chercher le Graal sont des gens qui confondent le contenant et le contenu, de même que ceux qui sont trop attachés, je dirais, à l'Église ou au geste du sacrement lui-même font la même confusion. L'important, c'est le sens du geste que l'on fait et non pas le geste lui-même. Autrement dit, le Graal, c'est donc ce lieu où s'opère quelque chose d'important et où s'opère aussi autre chose qui me plaît, c'est la transformation du vin en sang du Christ. Parce qu'en effet, on verse du vin et il dit « ceci est mon sang ». Donc il y a ce qu'on appelle une sorte de transmutation et le vin, au départ, devient tout à coup quelque chose d'important. Le liquide insignifiant du départ, qui est du vin, et qui peut d'ailleurs être mauvais, devient tout à coup le symbole de quelque chose d'excellent. C'est pourquoi d'ailleurs nous prenons toujours garde à la communion à l'Église que le vin soit mauvais. Parce que si le vin était bon, vous diriez à la communion « mais c'est un merveilleux bon vin » et vous passeriez à côté de la signification du rite qui est que le mauvais vin se transforme dans quelque chose d'extraordinairement bon qui est le symbole de la présence du Christ que nous voulons mettre en nous. Et donc, cette transmutation, la coupe qui devient le lieu de la transmutation d'un liquide vulgaire dans quelque chose qui donne la vie, est quelque chose d'absolument passionnant, parce que c'est la transformation du matériel en spirituel, la transformation de quelque chose qui ne vaut rien en quelque chose qui vaut tout. Et ça, c'est ce qui me rapproche de mon deuxième objet, c'est la pierre philosophale. Alors je laisse en suspens mon Graal et je vous dis un mot sur la pierre philosophale et vous allez voir pourquoi je relis les deux. La pierre philosophale, je vous l'ai dit, c'est cet objet dont on disait qu'il devait permettre de transformer le plomb en or. Là encore, ceux qui l'ont cherché sans le trouver se sont trompés d'objet parce qu'ils cherchaient un objet matériel, un objet qui soit une pierre, qui puisse transformer matériellement du plomb en or, alors que ce n'est pas du tout cela dont il s'agit. Et ceux qui ont dit l'avoir trouvé étaient des bons théologiens. Et ils ont dit que l'important, ce n'est pas de trouver un objet matériel qui transforme une matière dans une autre matière, mais c'est de transformer, d'être capable de transformer le vulgaire en noble, le mauvais en bon, ce qui ne vaut rien en quelque chose qui a une valeur infini. Et en fait, c'est la transformation du matériel en spirituel. C'est-à-dire que ceux qui se sont trompés, se sont vraiment trompés. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était être riches au niveau du compte en banque, c'est-à-dire avoir de l'or. Mais l'Évangile nous apprend bien que la vraie richesse importante, ce n'est pas celle du compte en banque, mais c'est la richesse intérieure. Jésus dit « Ne vous amassez pas des trésors sur terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers et la rouille ne peuvent rien faire, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Et donc nous sommes invités à chercher de la richesse spirituelle. Et ça, je le sais bien, surtout moi en tant que pasteur qui voit beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup de modes de vie. La sagesse populaire dit depuis toujours que la richesse ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. On le dit, personne ne le croit, mais moi je vous dis que c'est vrai. Et j'en suis convaincu. Et en fait, tout le monde sait que c'est vrai. On dit que, vous savez, on a fait des études pour savoir quels étaient les peuples les plus heureux. Et nous, occidentaux, on est stupéfaits de voir que les gens qui se disent les plus heureux sont des gens en Inde qui n'ont pas le quart du dixième, du centième, du confort et des richesses que nous avons. Et par conséquent, la vraie richesse, elle est évidemment ailleurs. Et la vraie richesse, elle est intérieure. C'est d'un autre ordre. Et donc, l'Évangile, lui, il s'en fiche que vous ayez de l'or ou que vous n'en ayez pas. L'Évangile, c'est une recette pour être riche intérieurement. Et de pouvoir se dire, je suis moi un homme riche, quelle que soit ma pauvreté, ma richesse, mes fins de mois, mes dettes, mes machins, etc. Je suis riche parce que j'ai une richesse que personne ne peut me retirer. Et ça, comment fait-on pour avoir cette richesse? Eh bien justement, il faut avoir une méthode. Et les alchimistes, qui n'étaient pas des idiots, savaient très bien qu'on ne pouvait pas transformer matériellement du plomb en or. Les alchimistes savaient que le seul moyen d'être vraiment riche, c'est de partir de quelque chose au départ. C'est-à-dire que c'est difficile de faire surgir tout à coup quelque chose à partir de rien. Mais par contre, on peut arriver à transformer en bien quelque chose qui existe déjà, même s'il n'est pas très bon au départ. Voilà ce que je veux dire. Eh bien, la pierre philosophale, c'est ça. C'est de dire, vous voulez être riche, eh bien, plutôt que d'attendre que ça vous tombe du ciel, plutôt que de vous lamenter parce que vous ne l'êtes pas, plutôt que de prier Dieu pour qu'il vous envoie des seaux d'or ou de richesses intérieures comme ça à vos pieds, cherchez dans les recoins de votre vie qu'est-ce qu'il y a de moyen qui n'a pas de valeur, mais qu'est-ce que vous avez quand même, en fait. Parce qu'on a tous des choses qui sont peut-être pas très bonnes, qui sont peut-être pas extraordinaires, pas très joyeuses, pas très lumineuses, mais on a tous des choses, et bien c'est ça qu'il faut transformer en quelque chose de merveilleux. C'est ce qui s'appelle la transmutation. Et bien, dans nos vies, il y a plein de choses à transmuter, plein de choses à transformer. D'abord, peut-être que notre vie elle-même, parfois, elle nous paraît lourde comme du plomb. Eh bien, notre vie lourde comme du plomb, elle peut être transformée dans une valeur infinie, comme une vie dorée à leur fin. Peut-être que dans notre vie, il y a des choses lourdes qui nous arrivent, comme du plomb. Il y a des épreuves, et on dira, ah, ça c'est lourd à porter, oui. Il y a des choses qui sont comme du plomb dans nos vies, des choses qui plombent notre existence, qui sont comme des boulets de plomb que nous traînons. Eh bien, c'est ce plomb-là que Dieu peut transformer en richesse, en or et en trésor. Ces choses lourdes, ces épreuves peuvent devenir pour nous des richesses. Et même nos handicaps peuvent devenir pour nous des chances. Regardez dans les librairies, les succès de librairies sont pleins de ces gens qui sont handicapés, mais au-delà de ce que nous pourrions imaginer nous-mêmes être, et qui arrivent à faire de ces handicaps des chances absolument incroyables, et qui deviennent des gens qu'on admire, et qu'on dit, mais ça, ils ont eu quelque chose que nous n'avons pas. Et comment nous pouvons aussi transformer l'épreuve destructrice qui nous atteint en expérience constructive, ça c'est quelque chose de possible. Toute épreuve destructrice peut devenir pour nous une expérience constructive. Il faut arriver à transmuter. Il n'y a pas grand-chose à faire entre le plomb et l'or, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il faut arriver à transmuter le plomb en or. Transformer même la mort en vie, et il suffit pour ça d'aller dans le bon sens, et ça, pour y arriver, c'est la pierre philosophale. Alors, je pense que c'est vrai, parce que de toute façon, notre vie physique ne vaut pas grand-chose en soi, et le but de notre vie, c'est justement de la transformer dans quelque chose qui est une valeur infinie. Et quelle est cette pierre philosophale? Eh bien, je pense que cette pierre philosophale, c'est Jésus-Christ. Voilà. C'est d'ailleurs assez clair. Il y a de nombreux passages qui disent que Jésus est la pierre. Il y a, c'est dit dans l'Évangile, dans la parabole des vignerons, où on dit là, Jésus, il est la pierre d'angle. La pierre d'angle que les bâtisseurs ont rejetée, elle est devenue la principale, celle de l'angle. Ou dans l'épître de Pierre que nous avons lu, quand il dit « Approchez-vous de la seule pierre qui est Jésus ». Donc Jésus, il est la pierre angulaire. Eh bien, c'est Jésus lui-même qui est la pierre philosophale, c'est-à-dire que c'est lui encore qui est l'outil qui permet de transformer le mal en bien, le pesant en riche, la mort en vie. Et je pense d'ailleurs que la théologie évangélique, elle est fondamentalement une théologie de la transformation. Et que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de faire le tri entre le bien et le mal dans nos existences, vous voyez, en disant je vais retirer le mal, je vais lutter contre la tentation, je vais m'empêcher de mal faire, et je vais me forcer à faire du bien. Ça, ce n'est pas évangélique. L'Évangile, c'est au contraire une théologie de la transformation. Et de dire, il y a des choses, avec Dieu, vous pouvez les transformer en quelque chose de beau et les transformer en chance. Et on le sait, tous nos défauts, toutes nos psychoses, toutes nos faiblesses, bien utilisées, peuvent devenir des chances extraordinaires et même des grâces, je dirais. Le tout, c'est de les regarder dans le bon sens. Et l'Évangile nous invite justement à, non pas à avoir l'idée d'un Dieu qui serait là pour enlever les épreuves, pour nous éviter le mal, pour éviter qu'on ait des problèmes, mais Dieu est là pour faire en sorte que tout ce qu'il y a dans notre vie, bien ou mal, puisse être transformé en quelque chose de positif. Transformé, transmuté, il y a un terme technique pour dire cela dans le langage religieux, c'est convertir. La conversion, voilà, la conversion. Avec Dieu, nous pouvons convertir chaque chose en quelque chose de positif. Donc ce n'est pas l'ascétisme, ce n'est pas la négation même de la dimension physique de notre être, mais c'est la conversion. Il ne s'agit pas de sacrifier le corps pour élever l'âme, mais il s'agit de transmuter notre vie animale et physique dans une vie angélique. Il ne s'agit pas de nier, de rejeter ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous avons fait, ce que nous avons subi, mais de transmuter, de faire changer tout cela pour que ça devienne une richesse infinie et éternelle. Et je pense que ça, c'est vrai, et c'est cet outil qui permet de le faire, c'est Jésus-Christ lui-même qui est, je dirais, cette pierre philosophale. Et j'en ai la preuve. Voilà le lien. C'est que je vous ai dit dans le Graal de tout à l'heure, l'important c'est ce qu'il y a dedans. Et je vous ai dit l'important ce qu'il y a dedans c'est cette présence du Christ qui peut justement faire passer de la mort à la vie comme à Pâques et donner la vie éternelle. Et c'est ça de transmuter, je vous l'ai dit, la vie physique dans une vie éternelle et spirituelle. Et j'ai la preuve que c'est bien la pierre philosophale qui est dans le Graal. En tout cas, il y a un lien entre les deux. Les vieilles traditions moyenâgeuses disaient « Le Graal était en fait sculpté dans une pierre. » Ça, c'est intéressant, hein, ce n'était pas une coupe de métal. Il était sculpté dans une pierre et les grands mystiques ont dit « La pierre philosophale, c'est le Graal. » C'est-à-dire que le Graal lui-même était sculpté dans la pierre philosophale. Sur ce point, ils avaient un peu raison et un peu tort. parce que je pense qu'il y a un lien entre le Graal et la pierre philosophale, mais que la pierre philosophale, elle est dans le Graal. Et j'en ai la preuve, comme je vous l'ai dit. Le premier, c'est l'étymologie d'abord. D'où vient le mot Graal? Alors, les gens se disputent là-dessus. Et l'étymologie à laquelle je crois, c'est que ça viendrait de l'hébreu gar-el, qui veut dire la pierre de Dieu. Et donc, le Graal nous renvoie bien à cette pierre divine. Bon. Et autre chose plus importante, c'est le portail nord de la cathédrale de Chartres. Si vous allez à la cathédrale de Chartres, il y a sur le portail nord, dit portail des initiés, évidemment, on voit là un certain nombre de personnages, dont un qui est un peu mystérieux, dont on nous dit que c'est Melchisédek. Melchisédek, c'est un personnage très bizarre dans l'Ancien Testament, dont on nous dit qu'il était prêtre, mais il n'appartenait à aucune tribu sacerdotale. Il n'avait aucune généalogie, on ne sait pas ni d'où il venait, ni où il allait, mais il était prêtre du Très-Haut, et le premier dans la Bible à évoquer le nom de l'Éternel. Et la Bible nous dit que Melchisédek est l'image de précurseur du Christ. Bon. Et par conséquent, on voit Melchisédek. Et Melchisédek tient une coupe, évidemment, dans la main, parce qu'il apporte à Abraham du pain et du vin. Et Melchisédek tient une coupe qui est le Graal. Or, cette coupe, si vous allez à Chartres, vous le verrez, est très mystérieuse. Parce que normalement, s'il avait une coupe, on devrait voir ce qu'il y a dedans en creux, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir du vin à l'intérieur, donc la coupe devrait être creuse. Alors que là, la coupe que porte Melchisédek n'est pas en creux, mais il y a dedans quelque chose qui dépasse, qui est une pierre, justement. Et donc la coupe que porte Melchisédek, elle est remplie non pas d'un liquide, mais d'une pierre qui dépasse les bords de la coupe. Et par conséquent, ce roi Melchisédek, roi sans territoire, sans royaume, ce roi dont la royauté n'est pas de ce monde, ce roi qui est le prêtre des prêtres, le précurseur du Christ, eh bien, il a bien justement celui qui a la coupe, qui est le Graal, l'objet qui peut donner la vie éternelle, transformer toute vie physique en vie spirituelle, et dans ce Graal, il y a la pierre philosophale, qui est Jésus lui-même. Donc, vous savez tout. Le Graal, c'est ce qui contient le sang du Christ et ce qui contient la pierre philosophale. Et la pierre philosophale, c'est Jésus lui-même, représenté par son corps et son sang, par sa vie et son être, enfin tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Maintenant que vous savez où est la pierre philosophale, reste à savoir comment l'utiliser. Là, la réponse, et c'est donnée par la Bible, c'est que la pierre philosophale, elle se mange. C'est-à-dire que pour qu'elle transforme, il faut la manger. Ça, c'est pour nous transformer nous-mêmes. Et pour transformer les choses, il faut frotter avec. Vous donnez le mode d'emploi, vous savez, comme on fait toujours dans les discours de Camelot, il y a toujours des tas de pierres formidables qui enlèvent toutes les tâches. C'est un petit peu comme ça. La pierre philosophale, pour transformer quelque chose de plomb en or, il faut frotter la chose avec ça. C'est-à-dire qu'il y a l'Évangile et il faut frotter notre existence sur l'Évangile. Et il faut frotter l'Évangile sur les événements de notre existence, sur nos malchances, sur nos difficultés, sur notre être, sur tout ce qui nous arrive. On le frotte à l'Évangile, à la pierre philosophale du Christ, jusqu'à ce que ça brille comme de l'or. Et pour nous transformer nous-mêmes, je vous l'ai dit, il faut la manger. Et donc avaler la pierre philosophale, la mettre en soi, pour que ce ne soit pas seulement les événements de notre existence, nos chances, nos peines, nos épreuves, mais que ce soit toute notre vie qui soit transformée à l'image du Christ. Et cet évangile de Jésus, qui est la pierre essentielle de laquelle l'apôtre nous invite de nous approcher, elle peut transformer toute notre vie, comme elle l'a fait à des milliers de chrétiens depuis des millénaires. Et par lui, par cet évangile, on peut profiter d'une puissance de transformation, de transmutation absolument extraordinaire. Et de même que Pâques c'est la transformation de la mort en vie, du deuil en joie, de même que dans Pâques nous avons l'exemple même de cette puissance de Dieu qui peut transformer le pire en meilleur, eh bien, cela peut agir sur nous. Pâques, c'est ça. C'est l'échec de la mission du Christ. Au lieu d'être écouté, les hommes le tuent et le crucifient. Eh bien, cet échec devient le symbole de la résurrection et de la bonne nouvelle pour tous les chrétiens. Pâques, c'est la croix. La croix, symbole de signe de torture, d'objet de torture et de souffrance, qui devient pour les chrétiens un signe d'espérance et de vie. Et si Dieu arrive à transformer la mort du Christ en bonne nouvelle, s'il arrive à transformer le mal en bien, je pense qu'il est capable dans toutes nos existences de transformer les petits maux de notre existence en des biens à leur mesure. En tout cas, je le crois, Dieu peut tout transformer, Dieu peut tout renouveler. Et quand on nous dit que Dieu est créateur, je pense que Dieu est surtout transformateur. Il peut tout transformer, nous d'abord. Il peut transformer le mal qui est en nous, le mal que nous avons subi. Dieu ne nie jamais le passé, ou ce qui est, mais il le transforme. Et comment ? Eh bien, par Jésus, qui est la pierre philosophale. Alors maintenant, ça n'est pas facile, et la tradition ancienne le dit, cette quête de la pierre philosophale est compliquée, hein, ça demande un vrai travail, elle ne nous tombe pas comme ça devant nos pieds tout seul. Et il y a donc une quête à faire, c'est la quête de toute une vie. Il faut chercher, il faut réfléchir, il faut travailler. Et là, je vous ai indiqué un chemin, mais c'est à vous d'aller la chercher, cette pierre. C'est à vous de vous donner du mal, de faire cette quête qui va vous emmener vers des tas de chemins parfois difficiles et rocailleux. Mais c'est pas tout à coup on l'a trouvé, tout à coup on a réussi. C'est une pierre qu'on va trouver un petit peu sans arrêt en cours du chemin. Et là-dessus, la tradition ancienne l'a dit aussi, c'est que finalement, c'est pratiquement la quête elle-même qui est le Graal lui-même. C'est-à-dire le fait de chercher fait en sorte qu'on est sans arrêt dans cette logique de la transformation, de la quête du Graal et de la vie par-delà la mort. Et ainsi, il y a un cadeau qui nous est fait, mais le tout, c'est de savoir le reconnaître et de le chercher. Et l'Évangile nous dit, ne craignez pas, car qui cherche trouve, et on donnera à celui qui demande. Amen.